Bonjour à toutes et à tous, Écho de ma commune, vous êtes aujourd'hui présenté par Christophe Jubien, à la technique Émilie que je remercie d'ores et déjà. Et nous allons parler aujourd'hui en compagnie de mes invités Audrey Saliou, prof d'allemand au lycée Marceau à Chartres, Jean-Laurent Delay qui est prof de physique à Lançon, donc il n'a pas pu venir, c'est un peu loin à Lançon, il nous parlera au téléphone. Et Cédric Séquinet, qui est prof de maths au lycée Rotrou à Dreux. Alors il y a deux profs de lycée aujourd'hui dans nos studios, mais on va quand même parler... peut-être avant toute chose, de la réforme des collèges, parce que peut-être que tout le monde, finalement, en souffre. Enfin, ça, vous allez nous le dire. Je mets un point d'interrogation. Et puis, on parlera plus largement de l'état de l'éducation en France. Est-ce que le niveau des élèves a baissé? Est-ce que ça, c'est une vieille lune de réac? Est-ce qu'au contraire, eh bien, l'éducation s'est démocratisée? Est-ce que le savoir s'est démocratisé? On va parler de tout ça au cours de cette émission. On va tout d'abord démarrer avec la réforme du collège. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est quelles en sont les répercussions, précisément, dans l'exercice de votre profession. J'ai peut-être commencé avec Jean-Laurent Delay, qui, lui, est prof de collège à Lançon, prof de physique. Alors, cette réforme du collège, ça change quoi, au bout du compte ?
Ça change officiellement pas grand-chose, mais concrètement, ça change beaucoup de paramètres et beaucoup de choses, aussi bien au niveau des enseignants qu'au niveau des élèves. Si on prend simplement au niveau des élèves, ça change au niveau de leurs horaires effectifs d'enseignement. Le choix du gouvernement a été de lisser les horaires et de faire en sorte que tous les élèves aient le même horaire hebdomadaire de la 6e à la 3e. C'est-à-dire qu'à partir de la mise en place de la réforme, donc à la rentrée prochaine, là en septembre 2016, tous les élèves auront 26 heures de cours par semaine, ni plus ni moins. Ça, c'est la version officielle. Alors que actuellement il y a des fluctuations, donc on a par exemple en 6e actuellement on a 25 heures par semaine, en 5e c'est 23 heures, en 4e c'est 26 heures et en 3e c'est 28h30. Donc
ah oui, donc il y a vraiment, oui, d'accord. On est loin de la réalité là avec ce qu'on
donc
nous dit.
Donc on va lisser tout ça, tout le monde aura 26 heures par semaine, 26 ça c'est le voilà, c'est ce que nous annonce le ministère. La petite subtilité, c'est que dans les 26 heures, donc ce ne seront pas 26 heures de cours, hein, c'est ce qu'il faut bien comprendre. C'est-à-dire que sur ces 26 heures, en fait, on va grignoter quelques heures qui seront prises sur certaines matières. Alors, on ne sait pas exactement lesquelles puisque toutes les matières peuvent être impactées, ça sera au choix de l'établissement. En sixième, on va grignoter 3 heures sur les 26 heures. Et puis en cinquième, quatrième et troisième, on va grignoter 4 heures pour faire des apprentissages, mais autrement. C'est-à-dire autrement que du cours classique traditionnel.
Ah bah alors autrement, ça veut dire quoi, ça ?
Alors, ça veut dire que le ministère a imaginé des enseignements complémentaires. Donc, en plus des enseignements normaux, si on peut dire, les enseignements complémentaires, donc 3 heures en 6e et puis 4 heures en 5e, 4e et 3e. Donc, en 6e, c'est ce qu'ils appellent de l'accompagnement personnalisé. Alors, l'accompagnement personnalisé, il existe déjà à l'heure actuelle. C'est peut appeler vulgairement quelque sorte de l'aide aux élèves, donc de l'aide méthodologique, de l'aide pour mieux apprendre, pour mieux comprendre les leçons, pour mieux se préparer au travail, refaire les exercices, etc. Donc actuellement, ça se fait déjà, mais ça se fait en plus des heures de cours. Là, la grande différence, c'est que ça se fera pendant les heures de cours.
D'accord, c'est-à-dire que certaines matières seront gommées au profit de l'enseignement de la méthodologie, ce qui reste un peu vague, non ?
Le souci aussi, c'est que si on regarde les textes officiels, c'est très 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 flou, c'est-à-dire que c'est de la méthodologie, mais c'est pas vraiment de la méthodologie parce que ça doit s'appuyer sur les programmes. Faire de la méthodologie en s'appuyant sur les programmes, ça peut être un peu compliqué à mettre en place.
Cédric.
Oui, alors pour rebondir un petit peu sur cet accompagnement personnalisé, il existe déjà au lycée depuis maintenant 6 ans, je crois, 6 ou 7 ans. Et en fait, oui, c'est quand même un grand flou, hein. C'est-à-dire que c'est pour ça que les profs de lycée aussi sont pas tout à fait d'accord sur cette réforme du collège, parce que concrètement, les heures d'accompagnement personnalisé, sur le papier, ça doit être très bien, ça doit aider les élèves, effectivement, à leur réexpliquer des choses qu'ils n'ont pas compris, etc., etc. L'ennui, c'est que les heures d'accompagnement personnalisé, à un moment, c'était donné à celui qui n'avait plus assez d'heures. Donc, je vous prends l'exemple le plus démesuré possible. Un prof de musique pouvait faire de l'accompagnement personnalisé.
D'accord. Donc,
Pour compléter son service. Et du coup, on peut se demander quelle aide il peut apporter aux élèves en maths, ou même si on peut être assez compétent sur beaucoup de choses. Voilà, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le nom est assez trompeur, puisque accompagnement personnalisé, on aurait tendance à penser que c'est personnalisé. Or, il arrive tout à fait qu'on ait des groupes. Moi, il m'est arrivé d'avoir des groupes d'accompagnement personnalisé à 35, c'est-à-dire avec la classe entière. Donc, tout de suite, pour personnaliser les choses, c'est assez compliqué. Concrètement, c'est quelque chose... Qui n'a absolument pas fonctionné lors de ces premières, les premières années où ça a été mis en place, où c'était, on va dire, un bazar absolument phénoménal. Hein.
Est-ce qu'il y a eu des remontées à ce moment-là auprès de l'Éducation nationale pour dire, non, attendez, ça marche pas, il faut qu'on fasse autrement.
Il n'y a jamais de bilan. C'est ça qu'il faut savoir.
C'est vrai, oui.
On a jamais de bilan sur les nouvelles réformes. C'est-à-dire qu'une réforme chasse l'autre, mais à aucun moment un bilan n'est fait de ce qui marche ou de ce qui marche pas.
Alors il y a un bilan qui est fait. Actuellement, il y a un bilan qui est fait justement sur la réforme des lycées. Donc on voit le délai pour la mise en place du bilan. Et le bilan, en fait, il y a une bonne partie des organisations syndicales qui ont quitté la table des négociations, puisque c'est un bilan à sens unique, c'est-à-dire que en fait, le ministère dit il y a un consensus, ça fonctionne pas si mal que ça, il y a des petits ajustements à faire, donc qu'est-ce qu'on pourrait faire comme petits ajustements? Donc tout le monde s'est bien rendu compte que ça ne fonctionnait pas. Le discours autiste du ministère, c'est ça fonctionne, mais comment est-ce qu'on peut améliorer le dispositif?
Non mais dis donc, on est en Union soviétique là, c'est ce que vous êtes en train de me dire.
Disons que actuellement le ministère est quand même relativement sourd aux demandes des différentes organisations syndicales pour discuter. Alors pour rester sur la réforme du collège, les manifestations qui ont eu lieu depuis le mois de mai de l'année dernière, donc depuis mai 2015, le décret d'application, l'arrêté sont parus au lendemain des premières manifestations et le ministère refuse catégoriquement de recevoir les organisations syndicales pour discuter de la mise en place. Enfin, de la renégociation de la mise en place de cette réforme. C'est-à-dire que là, c'est même plus un dialogue, quoi. C'est une rupture totale de dialogue.
Ouais. Moi, je me suis rendu sur les lieux où se déroulaient les manifestations contre la réforme du collège et certains enseignants sont évidemment troublés parce que la réforme du collège met en péril certaines matières. Je pense notamment à l'enseignement de l'allemand. Et là, je me tourne vers Audrey Sadiou, qui, je le rappelle, enseigne l'allemand au lycée Marceau à Chartres. L'enseignement de la langue allemande est en péril aujourd'hui en France.
Oui, tout à fait. L'enseignement de l'allemand est gravement menacé par cette réforme du collège. Depuis de nombreuses années déjà, effectivement, l'allemand est en perte de vitesse en France. C'est un effet de mode qui est ce qu'il est. Et les professeurs d'allemand, tous extrêmement motivés, tentent de faire ce qu'ils peuvent pour maintenir leur classe aussi dynamique que possible. D'ailleurs, si l'on se souvient bien, le traité de l'Élysée, qui remonte à de nombreuses années déjà, avait pour but de faire en sorte que l'allemand soit plus enseigné en France et que le français soit plus enseigné en Allemagne. Un traité qui dit que les deux États s'engagent solennellement à développer l'enseignement de la langue dans l'autre pays. Notre ministre actuel revient sur le traité de l'Élysée très clairement, puisque depuis une dizaine d'années, un peu plus même, nous avons en allemand des classes bilingues qui avaient été mises en place. C'est-à-dire que les élèves
au collège.
Au collège, oui, tout à fait, avaient la possibilité à l'entrée en sixième de prendre une deuxième langue vivante en plus de l'anglais. Et effectivement, dans beaucoup d'écoles, quasiment toutes les écoles, effectivement, cette deuxième langue, c'est l'allemand, parce que l'allemand a besoin que les politiques fassent quelque chose pour que les enfants l'apprennent. Donc, deux langues vivantes qui étaient mises sur un pied d'égalité, 3 heures de chaque langue par semaine durant 4 années. C'était donc un véritable moyen pour les élèves d'acquérir un bon niveau, de pouvoir participer aux échanges. Je pense au programme d'échange Sauzet, Voltaire. Je pense également à tous les jumelages qui sont maintenus à bout de bras par des professeurs aujourd'hui épuisés et déprimés. Ces classes bilingues sont supprimées clairement et nettement par la réforme.
Alors que le bilan était plutôt bon pour les élèves.
Le bilan était bon. Et le bilan était bon. C'est-à-dire que moi, je vois arriver au lycée des élèves qui ont fait bilingue et des élèves qui n'ont pas fait bilingue. Et clairement, l'écart de niveau est important entre ces élèves-là. Et donc, effectivement, la bilingue est un moyen pour les élèves, voilà, d'avoir un bon niveau et de développer l'apprentissage de l'allemand, de leur permettre effectivement d'avoir une maîtrise de l'allemand nécessaire pour s'épanouir auprès d'un correspondant, par exemple.
Est-ce qu'on peut parler d'un choix idéologique du gouvernement qui consisterait à dire que bah voilà, les classes bilingues, c'est élitiste, qu'on n'a pas le droit finalement
moi,
d'être.
Ça, c'est quelque chose qui a tendance à m'énerver, moi, l'élitisme de certaines classes, parce que voilà, moi, je suis professeur à Dreux. On a ouvert des sections européennes qui sont pas vraiment des sections bilingues.
C'est autre chose, oui, mais c'est
qui s'en rapprochent. Non, c'est pas élitiste. C'est réservé à des élèves qui sont motivés, qui ont envie d'apprendre un peu plus que ce qu'on leur apprend, que ce qu'on leur apprendra en général. Et moi, dans ces classes-là,
c'est coupable, ça, peut-être cette attitude.
Oui, bah,
de vouloir en apprendre un peu plus.
Bah, on dirait, oui, en ce moment.
En attendant,
oui.
Moi, dans mes sections européennes, j'ai des élèves qui viennent tous des quartiers, j'ai des élèves qui sont avec des revenus défavorisés, etc. Je trouve pas que ce sont des classes élitistes. En revanche, ils sont peut-être un petit peu plus motivés, ils ont peut-être un peu plus envie d'en apprendre plus. Je vois pas en quoi ça, ce serait condamnable, si vous voulez.
Ouais.
Alors, voilà, effectivement... Moi, je trouve ça un peu dommage, et c'est un petit peu ce que sous-tendrait un petit peu cette réforme qui supprime les bilingues, qui lisse des heures au collège, parce que forcément, pour faire de l'accompagnement, je dis pas qu'on peut rien faire en accompagnement personnalisé, on se débrouille à arriver à faire en sorte que des fois, ces heures d'accompagnement personnalisé soient efficaces. Hein.
Mais c'est au détriment, si je comprends bien, quand même, de l'enseignement d'une matière. Et ça, c'est
alors,
embêtant, non ?
Au collège, oui, effectivement. C'est-à-dire que les élèves vont avoir effectivement 26 heures d'enseignement par semaine, mais de ces 26 heures d'enseignement, on va finalement en retirer certaines pour faire ce qui s'appelle de l'accompagnement personnalisé en classe entière. Donc, oui, on retire des heures d'enseignement aux élèves pour faire autre chose.
C'est exactement ce qui s'est passé lors de la réforme de l'accompagnement personnalisé au lycée, où on a décidé, pour faire 2 heures d'accompagnement personnalisé, c'est-à-dire de soutien aux élèves, d'enlever 1 heure de maths, 1 heure de français.
Alors, est-ce que, j'ai posé une question volontairement provocatrice, est-ce que on cherche, une fois encore, peut-être, à niveler par le bas, par le biais de cette réforme des collèges. Est-ce qu'il y a une volonté claire, finalement, du ministère ? Peut-être pas de la ministre elle-même, d'ailleurs, parce qu'on se doute que derrière, il y a ce qu'on appelle les think tanks, hein, qui pondent des idées. Je sais que l'association Terra Nova est, au sein du Parti Socialiste, très active de ce point de vue-là. Est-ce qu'il y a une volonté, à votre avis, de niveler par le bas, quoi, d'empêcher...
En tout cas, selon moi, l'école, elle n'a plus, en fait, cette vocation à créer un futur citoyen éclairé. Moi, je pense que, voilà, l'école part, en tout cas, dans cette direction-là, qu'elle ne veut plus forcément que les élèves développent des connaissances, développent l'apprentissage de la valeur travail, de l'effort, apprennent le goût de l'effort. Et donc, en fait, on forme des utilisateurs qui doivent acquérir des compétences, des gens qui doivent être capables de manipuler ce qu'on va leur remettre entre les mains et finalement sans réflexion aucune. Madame Najat Vallaud-Belkacem disait pour justifier sa réforme du collège que les élèves s'ennuient à l'école. Qu'est-ce que ça veut dire donc maintenant ? C'est que l'école doit donc divertir, elle doit amuser. Le professeur devient quoi ? Un animateur de colonie de vacances, un clown ? Je pense pas que ce soit une bonne chose, on n'acquiert pas forcément tout en jouant. Effectivement, oui, il faut avoir du plaisir à apprendre, mais à l'école on n'est pas là pour jouer, on est là pour apprendre le monde du travail plus tard. Et Je pense qu'en supprimant des options au collège, comme par exemple la DP3, donc c'est-à-dire la découverte professionnelle 3 heures, qui permet donc à des enfants d'aller découvrir le monde de l'entreprise et de voir que on a besoin des mêmes valeurs comme la ponctualité, la politesse, le respect entre l'école et l'entreprise, bah c'est une chose importante que les enfants doivent voir. Et ces petits groupes-là d'enfants qui pouvaient être donc mis en stage dans une entreprise, donc avec les professeurs, etc., avec un partenariat entre l'école et les entreprises, là oui, effectivement, l'école montrait des choses intéressantes. Et en supprimant ça, je pense que effectivement l'école perd une partie de sa mission.
Et Jean-Laurent Dollet, vous partagez ce point de vue ?
Oui, tout à fait. Nous, au collège, alors pour revenir sur ce qui a été dit sur les classes bilingues, donc effectivement, sous couvert d'égalitarisme, on supprime des dispositifs qui fonctionnent très bien et qui seraient soi-disant élitistes. Ouais. Nous, au collège, dans le collège dans lequel j'enseigne à Alençon, là, on a des classes bilingues allemands, on a aussi des classes bilingues chinois,
tout à fait.
Qui est relativement rare quand même.
Oui.
Donc ça, c'est pareil. Hein. Y a, dans certains collèges, il y a des classes bilingues italien, il y a du portugais, il y a pas que l'allemand, hein, mais donc tous ces dispositifs-là vont disparaître. Les découvertes professionnelles, c'est pareil, ça disparaît, alors que on a tout un tas de gamins qui, pour lesquels justement ce dispositif est très intéressant, ça leur permet de voir autre chose. On a beaucoup d'élèves qui sont décrocheurs, qui sont pas faits pour les études longues, le lycée c'est pas pour eux, il vaut mieux que le lycée général, j'entends,
oui.
Il vaut mieux qu'ils aillent voir autre chose, pas que ce soit dévalorisant, bien au contraire, plutôt que d'avoir des élèves qui vont s'ennuyer, là pour le coup, qui vont vraiment s'ennuyer et qui vont gêner les autres pendant trois ans au lycée, ces élèves-là, il vaut mieux qu'ils aillent faire autre chose, et justement le dispositif DP3 leur permet d'avoir une vision un peu plus large du monde de l'entreprise et du monde du travail et de faire des choix judicieux quant à leur avenir professionnel. Donc ça, c'est on détruit tout un tas de choses des dispositifs qui étaient performants, qui permettaient à certains élèves de s'en sortir. Tout ça, c'est on jette à la poubelle et puis tout le monde va rentrer dans le même moule et tout le monde va devenir des espèces de presse-boutons à partir du moment où on sera devant un dispositif. Ben voilà, on nous donnera le mode d'emploi, il suffira d'appuyer sur le bouton et puis tout le monde sera content. Mais surtout, 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 ne pas réfléchir, parce que réfléchir, ça peut quand même être dangereux pour le gouvernement et pour les instances politiques.
Ouais. Ce qui est grave, c'est justement de ne plus avoir d'enfants capables de réfléchir. On se dit que ces enfants qui vont devenir des ados, puis après des jeunes adultes, sont la proie rêvée de mouvements, pourquoi pas terroristes,
Je crois qu'on en a des exemples récents.
Oui.
Voilà, malheureusement, je pense que ça confirme.
Ce sont les enfants perdus de l'école, les Ismaël Moustefaï, tous ces jeunes qui ont...
Moi, pour moi, ce sont des gamins qui étaient à l'école autour du 11 septembre 2001. Hein. C'est des gens qui étaient au collège et au lycée, qui ont certainement réagi d'une manière qui n'était pas convenable. Et je pense qu'on s'est un petit peu à un moment voilé la face en se disant « Non, mais... » Moi, j'ai toujours du mal à trouver des excuses. C'est pas parce qu'on vient d'un quartier, parce qu'on a défavorisé, qu'on a droit à des excuses, hein. Au contraire, je trouve ça même terrible pour la grande majorité des gamins qui viennent de quartier et qui sont très bons et qui justement travaillent peut-être plus que certains autres. Et je pense que ils devraient en être fiers. Et oui, je pense que c'est de toute façon ces gens-là, ce sont des gens qui étaient au collège et à l'école de la République. Oui. Hein. Donc ça veut dire que quelque part on a raté quelque chose. Hein. Et quand je dis on, voilà, on fait avec les moyens qu'on nous donne. Et je pense pas que ce soit avec des débats ou des choses comme ça qu'on peut... Pour moi, un élève, pour qu'il puisse réfléchir, il faut aussi lui donner les moyens de réfléchir. Or, que c'est pas quand vous enlevez une heure de français par-ci, une heure de maths par-là, un gamin, pour qu'il s'exprime et qu'il puisse débattre dans de bonnes conditions, il faut déjà qu'il ait les moyens de s'exprimer. C'est-à-dire,
les moyens linguistiques,
voilà.
Les mots.
Quand vous voyez.
Est-ce que le vocabulaire s'appauvrit, par exemple, le vocabulaire des jeunes, Vous êtes confronté à eux tous les
jours ?
Oui
et non, ça dépend de chaque enfant. Je pense pas que à la fin d'une scolarité, parce qu'un élève va venir de tel ou tel établissement, va avoir plus ou moins de vocabulaire. C'est comme tout, si un enfant apprend à aimer, à lire, si un enfant voilà, est stimulé dans son environnement, non, le niveau de vocabulaire sera bon. Si un enfant, au contraire, est laissé seul par sa famille et ne se met pas au travail à l'école, là, malheureusement, oui, peu importe d'où il vient, peu importe qui il est.
Alors, est-ce que le niveau d'exigence est le même qu'il y a 10 ans ou 15 ans ? Je vois que parfois, dans certaines classes de seconde, on enseigne le livre qui est étudié, c'est Les lettres de mon moulin. Moi, c'est quelque chose qu'on... C'est quelque chose qu'on étudie en sixième. C'est normal. Est-ce que c'est normal?
J'ai une réponse très simple. Alors sur le lycée, quand j'étais au lycée en tant qu'élève, au siècle dernier, voilà. Mais bon, c'est pas si longtemps que ça. Imaginons quelqu'un qui aurait voulu faire des mathématiques parce que c'est son truc, il adore ça. Quelqu'un qui aurait voulu faire des mathématiques, il avait 5 heures de maths en seconde, il avait 7 heures de mathématiques en première S. Il en avait 9 heures en terminale C à l'époque. Voilà. Donc ça fait 9 et 7, 16, 16 et 5, 21 heures sur le lycée. Vous prenez actuellement un élève qui a envie de faire des maths, pareil, c'est son truc dans le lycée actuel. Il a 4 heures de mathématiques en seconde. Je ne compte pas l'AP. Souvent, l'AP, ça peut être des maths, mais ça peut être fait par quelqu'un d'autre. Donc voilà. Donc je prends vraiment les horaires officiels sans l'AP. Il a 4 heures de maths en seconde. Il a 4 heures de mathématiques en première S. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'on ne dit pas assez. Quelqu'un qui fait des études scientifiques en première S a 4 heures de maths par semaine. Et il en a 8 heures en terminale s'il prend la spécialité maths. Ça veut dire 4 et 4, 8 et 8, 16. Il manque 5 heures. C'est-à-dire qu'un élève d'il y a 20 ans par rapport à un élève d'aujourd'hui, il a à peu près 5 heures de maths en moins semaine, ce qui correspond à environ un an et demi.
Il y a eu une excellence mathématique française il y a encore quelques années. Il y a eu des prix Nobel, etc., des Français. Ça va être terminé, ça, dans quelques années.
Là, on voit les classements PISA qui sont pas bons. Mais c'est... Donc, du coup, moi, après, je veux bien entendre le discours que le niveau baisse pas. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'un élève d'aujourd'hui, il a en formation, ne serait-ce qu'au lycée, je connais pas les chiffres du collège, il a environ une année de moins de maths que ceux qui étaient avant lui il y a 20 ans. Donc peut-être... après, moi, je veux bien que le niveau ne baisse pas.
Peut-être que le niveau baisse pas parce que on surnote. Est-ce que c'est un mythe ?
On ne surnote pas. Non. On ne surnote pas. Bon, même si on nous demande d'être bienveillants, on ne surnote pas tout de même. Mais les exigences ont baissé. C'est-à-dire qu'on demande aux élèves de faire des choses moins ambitieuses, à mon sens, que ce qu'on leur demandait il y a encore quelques années. Comment dire, avec la réforme du collège, c'est pareil, on va nous dire que le niveau ne baisse pas, mais les exigences, au final, vont obligatoirement baisser. Les textes avec les nouvelles exigences pour le brevet des collèges, donc les attendus de fin de troisième, viennent de sortir. Alors, le nouveau brevet des collèges, maintenant, il y aura plus de notes chiffrées, c'est-à-dire que actuellement, les élèves pour obtenir leur brevet sont évalués dans toutes les matières. Alors, ils ont un examen à la fin de leur année de troisième, une épreuve de français, une épreuve d'histoire-géographie et une épreuve de mathématiques, un petit peu comme les épreuves de bac, quoi. C'est des épreuves ponctuelles à la fin de l'année de troisième. Et pour toutes les autres matières, la note qui va être prise en compte pour l'attribution du brevet, c'est leur moyenne en contrôle continu sur le travail qu'ils ont fourni tout au long de l'année. Donc on additionne toutes les moyennes et puis on fait la moyenne générale de tout ça. Ça nous donne une note sur 20 et donc l'élève qui a au-dessus de 10 sur 20 à toutes ces épreuves va avoir son brevet. D'accord. Avec après des mentions bien, assez bien. Enfin, bon,
on comprend qu'il faut que tout le monde passe finalement et que tout le monde l'ait. Alors pourquoi ne pas donc, supprimer alors, carrément le brevet ?
Ça c'est le brevet actuel. Maintenant le brevet futur, en fait, on n'aura plus de notes chiffrées, c'est-à-dire qu'on va évaluer les compétences des élèves. C'est-à-dire que on va évaluer la compétence, je sais pas moi, est-ce que l'élève sait manier la langue française ? Alors, avec un niveau correct, avec un niveau plus que correct, avec un niveau moyen, et en fonction du correct, plus que correct ou moyen, on va lui attribuer un certain nombre de points, mais sur est-ce qu'il sait, en gros, est-ce qu'il sait parler français ? Voilà.
Oh, c'est très, très aléatoire, très évasif, tout ça, c'est très
vague. C'est très flou. Bon, après, on va certainement nous donner des indications un petit peu plus nettes pour savoir sait-il manier la langue. On va certainement avoir une grille qui sera un petit peu plus détaillée pour nous permettre de noter, mais voilà ce qu'on va évaluer à la fin de l'année. Alors, il y aura toujours un examen final, une épreuve écrite. Ça va être un petit peu différent, c'est-à-dire que l'épreuve écrite, donc il y aura une épreuve pour les sciences, donc mathématiques, SVT, technologie et physique-chimie, donc tout ça regroupé dans une épreuve un peu fourre-tout, et puis une autre épreuve écrite pour les lettres, dans lesquelles il y aura donc l'histoire-géographie, l'éducation morale et civique et le français. Donc voilà une épreuve un petit peu où tout ça sera mélangé. Donc ça sera les deux épreuves écrites finales. Et puis il y aura aussi un oral final au cours duquel donc les élèves seront évalués sur, alors on ne sait pas trop, hein, un truc qu'ils auront fait pendant leurs années du collège, un enseignement pratique interdisciplinaire ou bien quelque chose en rapport avec l'art.
On trouvera bien quelque chose.
On ne sait pas, donc pour l'instant c'est très flou, et puis voilà, donc on leur attribuera des points comme ça, et puis s'ils ont plus que, alors a priori le nombre de points total sera 700, et s'ils ont plus que 350, et ben c'est bon, on leur donnera leur brevet. Bon, alors c'est très nébuleux tout ça.
C'est très nébuleux, et puis concernant les langues, effectivement, voilà, un collègue me disait hier encore, par exemple, un élève qui aurait l'équivalent de 0 sur 20 de moyenne générale dans sa langue, on lui donnerait tout de même 10 points sur ses 700 points, parce que, voilà.
Parce que comme ça, parce que c'est comme ça.
Parce qu'il faut valoriser la...
Il faut être bienveillant.
La bienveillance a des limites, parce qu'après le bac, si on postule pour une fac, eh ben là... Ou à moins que le niveau des facs baisse lui aussi. On se dit que si le niveau du collège baisse, que le niveau du lycée baisse, ben, le niveau des facs aussi doit baisser, non?
Je vais revenir juste pour donner une petite anecdote au niveau, concernant le niveau. Il y a ça fait plus de 10 ans maintenant, quand j'étais moi-même enseignant au lycée Rotrou à Dreux, ça date quand même, puisque je suis parti, c'était en 2002, donc ça commence à faire quand même une paire d'années. J'avais un collègue à l'époque qui me disait déjà, mais les parents devraient nous attaquer pour non-assistance à élèves en danger, parce que les gamins, on leur ment, c'est-à-dire qu'on leur fait croire qu'ils ont tout un tas de connaissances, qu'ils sont très bons, qui peuvent aller à l'université et qui vont réussir, etc. Alors que c'est pas vrai. On leur donne pas le bagage nécessaire, on leur donne pas les armes pour pouvoir s'en sortir.
Alors ce mensonge organisé, qu'est-ce qu'il aura comme conséquence dans les années à venir? Qu'est-ce que vous prévoyez, vous?
Je ne sais pas trop. Ça fait bien longtemps que je me dis qu'à un moment donné, on va toucher le fond de la piscine, on va donner un coup de pied, on va remonter à la surface. Mais non, on continue à aller encore plus profond. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas.
Moi, je vais être un petit peu plus optimiste. Ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque réforme, en fait, c'est un nouveau bâton dans les roues du prof. Voilà. C'est-à-dire que moi, quand je vois une réforme, je me dis pas « ça va m'aider à faire quelque chose qui va me permettre de faire progresser mes élèves ». Je me dis à chaque fois « mince, comment je vais pouvoir arriver avec ces contraintes-là à faire en sorte que le gamin, quand il sortira, il sera meilleur que quand il est arrivé ».
Et vous dites que vous êtes plus optimiste, hein.
Oui, parce que à chaque fois... non, parce que si vous voulez, à chaque fois, on y arrive à trouver l'AP était un bazar absolument monstrueux les premières années de mise en place. Enfin, je sais pas si vous imaginez, il y a un élève qui arrive en seconde, donc il y a 15 ou 16 ans, il avait des heures d'AP où on lui demandait de colorier ses matières pour savoir et pour bien savoir gérer son emploi du temps.
Mon Dieu.
Oui, voilà. Non, mais c'est-à-dire que les élèves, en plus, ça ne fonctionne pas. Parce que les élèves, on les prend pour des idiots.
Et ils savent très bien.
Ça, ils le savent très bien. Au fur et à mesure, c'est mis en place plus ou moins des choses sur l'AP qui font que maintenant, l'AP, on arrive à s'en servir pour faire un peu progresser les élèves. Après, il y aura une nouvelle réforme. Donc, il faudra qu'on... Et à chaque fois qu'on trouve quelque chose qui marche, ça repart.
On arrive au terme de cette émission. On aurait pu parler encore des heures. Moi, en tout cas, je souhaitais vous rendre hommage d'avoir votre courage de prendre la parole. C'est pas si souvent que ça arrive. Et puis, votre ténacité à enseigner malgré ces bâtons dans les roues dont vous parliez, Cédric. Un grand merci à tous les trois. On se retrouve dans 4 semaines pour une prochaine édition d'Écho de ma commune et de mon canton. Et merci à Émilie en régie.